Nous allons commencer cette rencontre avec Georges Leroux autour de la, à l'occasion de la parution de Partita pour Glenn Gould, musique et forme de vie, parue aux presses de l'Université de Montréal, qui est tout juste parue. Certains d'entre vous ne l'ont pas encore vue, tenue entre leurs mains, ça ne saurait tarder. Prix de la revue Études françaises pour ce livre. Alors, bonsoir, merci d'être là. Mon nom est Marie-Andrée Lamontagne. J'aurai le plaisir d'animer cette rencontre avec Georges Leroux. Georges Leroux, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, très brièvement, vous expliquez peut-être un peu comment la soirée va se dérouler, parce que c'est vraiment une rencontre. Nous allons être ensemble pendant la prochaine heure et demie. Alors, dans un premier temps, on va s'entretenir de Gould, qui est votre passion, Georges Leroux, mais je crois que vous n'êtes pas le seul. Il y a quelques Gouldiens, au moins amateurs, ici dans l'assistance. Et puis, par la suite, vous pourrez intervenir, y aller de vos questions, de vos réflexions, de vos commentaires, d'échanges avec Georges Leroux. Et puis après, comme il s'agit d'un prix, il y a un côté festif à l'affaire. Donc, la revue Études françaises, les presses de l'Université de Montréal également, qui ont organisé la soirée de ce soir, il y a un petit vin qui est prévu, qui vous sera servi. Ça permettra de poursuivre l'échange d'une autre façon. Je vous dis tout de suite que ceux d'entre vous qui ont reçu un carton d'invitation en bonne et due forme doivent l'avoir lu, en principe, et avoir remarqué que ce soir, nous attendions la présence également de Mme Ghislaine Guertin. Ghislaine Guertin n'a pas besoin de présentation auprès des Gouldiens en bonne et due forme cette fois-ci. Malheureusement, elle est si compétente en la matière qu'elle a été sollicitée à droite et à gauche parce que c'est une année Gould, on y reviendra dans un instant. Et au dernier moment, elle a été retenue, appelée ailleurs et donc elle nous a demandé de l'excuser pour ce soir, ce que nous faisons bien volontiers. Ghislaine Guertin a dirigé donc ces deux ouvrages, notamment deux ouvrages à paraître, Glenn Gould pluriel aux éditions Momentum, c'est une réédition d'un ouvrage paru précédemment en 88 je crois, et puis également elle a dirigé Variations sur des thèmes de Gould, donc également aux éditions Momentum. Tout ça ce sera en librairie, dans cette librairie dans quelques jours. Alors pour ce soir et pour les jours prochains, vous avez de quoi lire avec Partita pour Glenn Gould. Alors Georges Leroux, je me suis demandé dans un premier temps. Alors, c'est vrai que c'est l'année Gould. Hein, on peut dire officiellement, d'ailleurs, je crois que la Fondation de Glenn Gould en a fait une année Gould de différentes façons. Mais en ce moment, il est beaucoup question de Glenn Gould, notamment parce que avec la manie des commémorations qui sont les nôtres, il y a bien sûr il y a deux dates d'anniversaire, en fait. Il y a le 25e anniversaire de sa mort, qui, dans deux jours, le 4 octobre 1984, donc. Et puis, il y a également... Et il y a également le 75e anniversaire de sa naissance. Mais cela, c'est l'écume de la réalité, pourrait-on dire. La réalité, c'est Glenn Gould qui nous réunit ce soir. Et je me suis demandé dans un premier temps, quelle forme donner à cette rencontre? Bien sûr, causerie, ça c'est la forme officielle, mais peut-être méditation, que je me disais dans la foulée de votre livre, de votre très bel essai, qui a un côté profondément méditatif. Et puis après, je me suis dit, impossible, nous allons parler. La méditation, par essence, c'est le livre, c'est le lecteur seul dans sa chambre qui lit. Ou alors l'audition de la musique, l'audition en solitaire de la musique permet également cette méditation. Vous avez dit, Georges Leroux, de votre livre qu'il s'agissait d'un exercice d'admiration. Alors très bien, mais dans votre prélude, vous parlez de l'amitié que l'on peut avoir pour une œuvre, notamment en la fréquentant. Alors là, je vous cite comme d'un entretien infini qui confie au temps le soin de s'approfondir en se dépassant. Alors c'est déjà très beau ainsi formulé, très juste, mais cette réflexion montre également les limites de l'amitié s'agissant de la fréquentation d'une œuvre puisqu'elle est soumise au temps. Cette amitié. Les œuvres que nous fréquentons amicalement, que nous croyons aimer, nous renvoient le plus souvent à nous-mêmes, à l'enfant que nous avons été lisant tel livre, par exemple, à l'adolescent que vous avez été écoutant Gould, vous le dites, vous êtes très présent également dans cet essai. Alors, il y a des limites, et vous ajoutez, il n'appartient qu'à l'amour de transcender le temps. Alors, j'avais trouvé ma forme pour ce soir, vous lisant, je me disais, tâchons donc ce soir, sans trop d'impudeur tout de même, de laisser parler l'amour, votre amour pour Glenn Gould. Vous êtes d'accord?
Ah, Je vais tenter.
Très bien. Et puis Glenn Gould, homme de conversation, dites-vous, peut-être nous entendra et murmurera tout à coup entre ses murs comme il en avait l'habitude. Bon, maintenant, vous avez voulu dans ce livre éviter la position en surplomb du savant à la recherche d'une vérité ou d'une explication. Il arrive, dites-vous, qu'on veuille préférer l'humilité d'admirer au projet de dominer ou de comprendre. Tout de même, admirant Glenn Gould, traduisant cette admiration en 350 pages bien senties et bien documentées, 350 pages ferventes, c'est malgré tout un exercice de la pensée. Qu'avez-vous compris de Glenn Gould? Que comprenez-vous de Glenn Gould? Que ne comprenez-vous pas de Glenn Gould?
D'abord, je voudrais dire que dans cet essai, je me suis beaucoup protégé. Et c'est la raison pour laquelle il y a certainement, et je le dis à tous mes lecteurs, une part de rhétorique dans l'expression qui consisterait à faire valoir qu'on renonce à la connaissance. Non, on ne peut pas renoncer à la connaissance. Mais quand on admire, évidemment, l'admiration nous porte à vouloir connaître. Mais le fait est que j'ai beaucoup fréquenté la littérature gouldienne, c'est-à-dire les savants. Il y a beaucoup de savants qui travaillent autour de Gould, des musicologues, des biographes, des critiques, des historiens de l'interprétation au piano, des historiens du répertoire, et même des gens qui ont travaillé sur l'instrument, c'est-à-dire par exemple qu'est-ce qu'il aimait comme instrument et pourquoi. Alors moi j'ai très rapidement vu, compte tenu de mon travail conçu autrement, c'est-à-dire que je ne suis pas ni musicologue ni rien de ça, je me reconnais dans la très belle expression de Gilles Marcotte que j'ai cru entrevoir tout à l'heure, et je le salue, comme un amateur de musique. J'aime la musique. Est-ce que je suis mélomane? Ça demanderait toute une discussion. Par certains côtés, oui. Mais là, la question que vous posez concerne donc précisément la connaissance et les limites qu'on peut poser à l'effort de connaître. Lisant toute cette littérature, ces biographies en particulier, qui, la dernière en date étant celle d'un savant de Vancouver qui s'appelle Kevin Bazana, elle est traduite en français à Montréal aux éditions du Boréal, elle est très bonne, je me suis avisé qu'il ne fallait pas que j'en remette. C'est-à-dire que les choses que je savais, les choses que j'apprenais par ces biographes étaient suffisantes pour mener la réflexion que je voulais mener. Maintenant, dans les choses que je connaissais le concernant, il y avait beaucoup de choses qui, malgré que j'en connaisse la réalité, si je peux m'exprimer ainsi, demeuraient pour moi opaques. Et donc, j'avais besoin de aller au-delà de cette opacité, et c'est ce que j'ai tenté de faire. Je pourrais peut-être donner un exemple.
Oui, allez-y.
Qui expliquerait la chose assez. Une des choses qui m'a le plus frappé chez lui, c'est l'aspect paradoxal, très profondément paradoxal, de beaucoup d'aspects de sa pratique. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui est un solitaire, je dirais quasi de naissance. Il naît dans un milieu où les vertus de la solitude sont reconnues et, je dirais, soutenues. Un milieu puritain, finalement. Un milieu
presbytérien.
Donc dans la banlieue de Toronto, dans un quartier de classe moyenne. Et son génie, on pourra revenir sur l'expression génie, va être reconnu très vite. D'abord parce que sa mère attendait un enfant musicien génial, elle le souhaitait tout à fait. Et elle l'a très rapidement isolé, c'est-à-dire qu'elle lui a donné les conditions de sa solitude, elle a nourri cette solitude, elle a fait en sorte qu'il développe son don.
Elle l'a formé musicalement,
elle était pianiste elle-même. Et bon, alors, cette solitude a été donc la condition dans laquelle toute sa jeunesse, son enfance d'abord, mais sa jeunesse aussi, s'est développée. Et rapidement, Gould, je crois, a compris que cette solitude allait être la condition de sa vie. Alors, comment se construit le paradoxe? Le paradoxe se construit du fait que, évidemment, le talent l'amenait à faire une carrière de concert. Il le fallait. Et il était si excellent que des impresarios lui ont évidemment fait des propositions. Il s'est lié avec un d'entre eux qui a géré quasi toute sa carrière de concertiste et qui s'appelle Walter Homburger. Et jusqu'en 1964, il a fait cette vie qui est l'idéal de tous les jeunes pianistes. C'est-à-dire qu'il a voulu, il a accepté plus exactement, de circuler sur toutes les scènes du monde. Le catalogue de ses concerts montre qu'il n'avait pas un agenda ou un calendrier aussi substantiel que des pianistes de sa catégorie. On pourrait pas le comparer, par exemple, à Horowitz ou à d'autres en termes de quantité de concerts acceptés, mais il circulait où il voulait. Il pouvait goûter la gloire.
Il avait beaucoup de succès.
Il avait un succès énorme.
En URSS, notamment.
En URSS, oui. À Salzbourg, un succès critique phénoménal. Et malgré ce succès, malgré donc tout ce qui vient avec, c'est-à-dire cette gloire authentique, hein, et tout le frisson, si j'ose dire, de la virtuosité en concert, lentement, ça nous le voyons dans ses lettres, nous le voyons dans son journal, lentement, il développe à l'endroit de la vie de concert une sorte d'allergie. Il devient malade. Il est constamment, en fait, malade. Par exemple, lorsqu'il est en Allemagne, il écrit à plusieurs reprises qu'il doit annuler. Et donc, il renonce dans une décision qui est formidable et que je la décris comme étant le seul événement de sa vie, parce que dans sa vie, ensuite, il n'y a que la musique. Le seul événement de sa vie, c'est cette décision donc de ne plus accepter le concert. Il se retire de la salle de concert. Le paradoxe, donc j'y reviens, c'est que cet homme qui aurait pu, je dirais, nourrir sa passion de la solitude d'une autre manière, il avait les moyens pour le faire, il s'était enrichi très rapidement, c'était un homme par ailleurs très généreux et sa richesse, on pourra en reparler, a été redistribuée d'une manière tout à fait intéressante, mais au contraire, dès qu'il a les conditions pour le retrait, il développe une activité phénoménale, frénétique de communication. Mmh. Il devient le grand communicateur. Il fait du disque, mais ça, ce n'est que le premier registre de son activité de communicateur. Il devient, bien sûr, un animateur de télévision et de radio qui est très, très prolifique. C'est énorme ce qu'il va faire. On pourra en reparler,
oui, on va en reparler certainement. Oui.
Au-delà de ça, il construit des documentaires, des œuvres d'art radiophoniques dont on pourra parler aussi, notamment cette fameuse trilogie de la solitude qui est un chef-d'œuvre inégalé dans les archives de la radio canadienne. Et donc, toute sa vie, il lutte, si j'ose dire, avec sa solitude, mais contre la solitude. Oui. Alors, ce paradoxe de l'ermite prédicateur, hein, la formule n'est pas de moi, la formule est de Kevin Bazana, cet ermite a voulu prêcher, ne pouvait pas s'en empêcher. Oui. Et quand on lui donnait le microphone, c'était pendant des heures.
Et vous dites prêcher, donc vraiment des prêches.
Oui, c'est-à-dire que on pourrait aller vers le contenu de sa prédication parce qu'il avait une esthétique très déterminée. Il avait une lecture du répertoire de l'histoire du piano qui était tout à fait personnel. Il privilégiait certaines choses et il détestait cordialement plusieurs autres choses. Mais à l'intérieur de ce paradoxe, puisque c'est vraiment vers ça que je voudrais aller, c'est-à-dire que pour débuter, à l'intérieur de ce paradoxe, il a développé un équilibre. C'est-à-dire qu'il a développé finalement une pratique de sa vie. J'appelle ça une forme de vie. On pourra revenir aussi peut-être sur cette expression que j'emprunte sans l'emprunter au philosophe Wittgenstein. Je dis pourquoi dans le livre. Mais cette pratique de son paradoxe a été extraordinairement fructueuse puisqu'il n'a jamais été franchement mélancolique ni saturnien. Il a été toujours un homme d'une joie extrême, mais dans des conditions de retrait absolu.
Et écrivez-vous, cette retraite de la scène l'amène à vouloir retrouver, à un but, c'est peut-être de retrouver aussi une autre communauté d'auditeurs et de communier, pour reprendre des termes religieux. On y reviendra d'ailleurs à ces termes religieux. Oui. Communier dans la musique, au-delà de la scène, au-delà de l'impureté de la salle de concert.
Alors,
donc c'est de dépasser également le paradoxe, non pas seulement de s'en nourrir pour trouver un point d'équilibre.
Oui, c'est vrai, parce que d'abord, on ne le sait pas assez, Gould a été un musicien extraordinairement prolixe dans l'écriture. on me contredira peut-être, mais je ne lui connais aucun équivalent dans l'écriture.
D'ailleurs, il aurait dit que s'il n'avait pas été musicien, il aurait aimé être écrivain.
Oui. Enfin, il avait beaucoup d'idéaux. Quand il est mort, il voulait devenir chef d'orchestre. C'était ce qui semblait son destin le plus naturel. Il voulait en finir avec l'enregistrement. Et il avait quelques projets. Il avait commencé un Haydn complet, dont nous n'avons qu'un volume. Mais il voulait continuer donc, comme chef d'orchestre. Mais donc, la question de l'écriture est importante parce que de tous les pianistes que nous connaissons, qui ont écrit, il est le seul qui a développé dans une somme d'articles qui est phénoménale une esthétique entière, c'est-à-dire pleinement élaborée. Or, il n'a jamais écrit de traité, mais on peut reconstituer donc dans ses essais sa position esthétique. Or, cette position esthétique, elle s'amorce précisément avec la critique du public. L'idée que il dit dans une phrase qui est terrible et qui est très importante parce que la plupart des pianistes qui ont critiqué Gould, le plus important étant Alfred Brendel, pour qui évidemment nous ne pouvons avoir que du respect et qui a copieusement détesté Gould et l'a écrit.
En se retirant de la scène, il se met en scène lui-même.
Dit cela, exactement. Et donc, Gould a dit, en parlant du public, « Je ne me souviens pas qu'une seule de mes interprétations ait été meilleure parce que le public était présent. » Donc, et c'est assez clair. Ça veut dire, en d'autres mots, que le travail dans la solitude était pour lui très supérieur. Donc, ça, c'est pour la partie de cette esthétique qui explique non seulement la fécondité du retrait, mais cette nécessité de dépasser le paradoxe. Par ailleurs, il détestait le concert en tant que tel. C'est-à-dire, pour lui, c'était une foire, c'était il a utilisé souvent l'expression cirque. Il avait développé avec le temps, et ceux d'entre vous ici qui sont musicien, je pense à mon ami Nathier qui sait ces choses-là et qui certainement sait de quoi il est question. Il avait développé, par exemple, pour Horowitz, une sorte de hargne. C'est dans sa vie et dans sa correspondance, c'est le seul épisode hargneux. À la fin de sa vie, il disait si je pouvais et si Sony m'en donnait les moyens, parce que Sony avait remplacé Columbia qui était son premier studio d'enregistrement, si Sony m'en donnait les moyens, j'enregistrerais un concert faux Horowitz. Ça voulait dire j'imiterais tout le brio de Horowitz, c'est-à-dire tous ces pianistes qui ont les doigts sur le piano jusqu'à l'extrémité et qui les dégagent dans une espèce de mouvement comme ça pour déclencher les applaudissements. Alors, il avait de Horowitz une... Je ne sais pas quel mot il faut employer, une sorte de...
D'aversion.
Horowitz était ce qu'il appelait pianistique. Et quand Gould employait le mot pianistique, ça voulait dire méprisable.
C'était une injure. Ouais. Vous écrivez « Réfléchir sur l'exception n'est sans doute qu'une manière détournée pour comprendre comment la liberté de l'artiste est possible ». Vous écrivez ça dans votre livre. Mais aussi en soi, on sent, en vous lisant, que l'exception vous fascine, l'exception Gould vous fascine. À la différence de tant d'artistes qui, prenant la pose de la subversion, et du coup devenant exceptionnel, croit-il, Glenn Gould creuse son exception dans l'ordre et l'ascèse. On a dit tout à l'heure un mot de ses origines, de son milieu religieux. Alors, c'est l'exception de la règle qu'il introduit dans un monde déréglé, par ailleurs. Que nous apprend l'exception Gould?
Alors, cette idée de l'exception me vient de Kant. J'ai cherché à élaborer avec un peu de précision ce que pouvait vouloir dire l'idée du génie le concernant. Bon. Alors, la première idée, évidemment, concernant le génie dans la tradition esthétique philosophique, surtout dans le romantisme allemand et dans ce qui a suivi, c'est le génie, c'est l'exception. C'est-à-dire, c'est ce qui est imprévisible, ce qui est à côté de... Seulement, Kant nous dit que l'exception ne suffit pas à définir le génie, puisque le génie est l'exception, et il faut compléter, qui impose la nouvelle règle, c'est-à-dire qui traverse en d'autres mots la convention, ce qui était accepté comme règle, et qui impose la nouvelle règle. Alors, je me suis demandé si cette définition kantienne, qui est assez bonne, c'est dans les observations sur le sentiment du beau et du sublime, si cette définition lui convenait. Alors, la réponse est oui. de toute évidence, car il n'est pas seulement l'exception du point de vue de son talent. C'est ça la chose sur laquelle il faut absolument réfléchir. Des pianistes de talent, nous en avons d'excellents. Je pense à Marc-André Hamelin au Québec, qui est vraiment un talent absolument extraordinaire, et je pourrais en citer d'autres. Et dans l'histoire donc du piano, il y en a beaucoup, et contemporain de Gould aussi. Bon, une chose que je regrette dans mon livre, c'est d'avoir traité Brendel de terne et morose, mais c'est parce qu'il m'a fait de la peine en critiquant Gould, alors j'ai été un peu rude à son endroit.
Mais les paroles s'envolent, les écrits restent, ils sont là.
Mais bon, peu importe. Je vais m'arranger avec Brendel si jamais ça se trouve. Mais je reviens donc au génie et à la question de l'exception. Gould avait un talent phénoménal. Absolument phénoménal. Il avait non seulement l'oreille absolue, ce que beaucoup de musiciens ont, mais il avait une mémoire de la partition et de l'oreille qu'on ne peut comparer à rien. Alors, je sais, grâce aux travaux de certains savants, en particulier de ceux qui ont été sollicités dans l'Encyclopédie des musiques dirigée par Jean-Jacques Natier, que la question de l'oreille, la question de ce talent, fait l'objet de beaucoup de recherches aujourd'hui. Comment des êtres naissent avec de tels talents? J'en donne un exemple. C'est un exemple qui peut peut-être intriguer, mais qui est réel. Un jour que Gould était avec le cinéaste Bruno Mont-Saint-Jean, et qui l'a filmé donc à Toronto à plusieurs reprises. Ils étaient en voiture le soir dans une de leurs virées nocturnes. Gould était un grand nocturne, moins Mont-Saint-Jean semble-t-il, mais il devait le tolérer. Et ils ont mis la radio, et à cette époque-là, il y avait de la musique à Radio-Canada, donc ils ont capté... un concert de quatuor à cordes, musique de quatuor à cordes. Et ils ont écouté donc pendant une dizaine de minutes un quatuor à cordes, et ils se demandaient, mais de qui est ce quatuor à cordes, qu'est-ce que ça pourrait être et tout. Et ils n'arrivaient pas à identifier l'auteur. À la fin, le présentateur dit, voilà, c'est le quatuor en fa mineur de Mendelssohn. Il était 4 heures du matin. Le lendemain matin, ils avaient rendez-vous pour filmer à 9h ou 9h15. Ils étaient très fatigués. En arrivant au studio, Gould s'est mis au piano et il a joué une transcription parfaite de tout le quatuor, de toute la partie qu'il avait entendue. Bon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde de faire.
Ça donne la mesure.
Alors, bon, ça, c'est pour la partie génie-talent, c'est-à-dire l'exception en tant que talent. Maintenant, je veux répondre à la question kantienne. Je m'excuse d'être un peu long parce qu'il faut être un peu plus clair sur ça. Sur la question de l'exception qui impose la règle, évidemment, là, c'est l'autre volet du génie. C'est-à-dire, il s'agit du génie de l'interprète. C'est celui, en d'autres mots, qui modifie la tradition musicale de l'interprétation et qui va imposer, je ne sais pas s'il a réussi, mais une manière de lire le répertoire qui l'intéresse, c'est-à-dire en le jouant. Oui. Et ça, il l'a fait.
Et de telle sorte qu'on ne puisse plus ne plus entendre Bach, par exemple, de la même façon.
De telle sorte que...
On ne peut plus ignorer
ce goût du détachement et de la pureté, ce refus de la pédale accentuée et du legato qui avait caractérisé toute la tradition antérieure.
Mais Georges Leroux, alors justement, le génie, l'exception, vous écrivez bien que c'est... S'agissant de Gould, c'est l'association de puritanisme et du génie qui le sépare de tout autre artiste de son temps. C'est ce que vous écrivez. Est-ce cela, cette combinaison vraiment qui le distingue? Le puritanisme, quel rôle joue le puritanisme dans cette combinaison?
Alors oui, là évidemment, en sautant de la question du génie à la question du puritanisme, on fait un saut qui, dans mon livre, prend pas mal de temps.
Mais c'est le propre de ces rencontres d'être
mais
capable.
Je vous le reproche pas là. Je veux juste prévenir. En allant vers le puritanisme, en effet, on est dans un sujet où l'esthétique et la morale sont beaucoup plus associées que quand on est uniquement sur la question du génie. J'irais même jusqu'à dire que dans l'esthétique romantique du génie, la question morale n'est pas posée, alors que dans la question du puritanisme, la question morale est évidente. Bon, alors qu'est-ce qu'on veut dire par la question morale? On veut dire que tous les prédicats qui servent à qualifier le jeu, disons le jeu de Gould, ou les musiques qu'il aimait,
hein, qu'il a appelé par moments le répertoire spirituel. Le mot est de lui. Hein. Un répertoire qui, en gros, est une ligne droite courant des virginalistes anglais, de Bach, bien entendu, et qui arrive directement dans le dodécaphonisme moderne, c'est-à-dire principalement Schoenberg et Webern, qui étaient son amour peut-être le plus considérable, comme Ghislaine Guertin, qui malheureusement n'est pas ici, l'a montré. Alors, donc, dans ce répertoire, comme dans son jeu, quand nous allons vers les prédicats qui caractérisent tout cela, nous avons des mots tels que pureté, dépouillement, altruisme, sévérité, austérité, etc. Bon. Alors, on doit s'interroger, c'est-à-dire que, ou bien ces mots sont autre chose que des associations, appelons-les floues, entre la perception que nous avons d'une musique et une certaine façon de vivre, une forme de vie qui est caractérisée par le dépouillement, etc. Ou alors nous pensons que c'est une seule et même chose que l'esthétique et l'éthique. C'est la thèse que je soutiens. C'est-à-dire que j'expose assez en détail le rapport entre le puritanisme moral et ce dépouillement quand il a des effets esthétiques. Ça m'amène bien sûr à lire la forme de vie de Gould d'une manière très particulière, peut-être excessive. Je suis prêt à en discuter, c'est-à-dire que j'ai tendance à pousser à la marge les aspects de sa vie et de son esthétique qui ne correspondent pas à ce puritanisme, parce que je les juge mineurs, et au contraire, à faire saillir, à montrer, à mettre en relief les aspects de sa vie et de son jeu qui sont donc inscrits dans, à la fois dans la ligne du répertoire et dans la tradition morale à laquelle il appartient.
Vous avez donné quelques exemples de mots. Les mots, parlons-en, ceux que vous utilisez à plusieurs reprises, il y a le vocabulaire religieux, voire mystique utilisé. Visage transporté, par exemple, dites-vous, lorsque Gould est au piano. Dévotion, fusion dans l'art. Peut-on en dire autant de tout artiste digne de ce nom et qui prend au sérieux son travail, qui, je ne veux pas dire qu'il est gagné par l'esprit de sérieux, mais enfin qui s'engage entièrement dans son travail, ou ce langage est-il autorisé s'agissant de Gould?
Alors, ici, je n'aurais pas capté ce langage avec la même détermination si je n'avais pas eu les textes de Gould s'auto-interprétant. Oui. Ça, c'est très important. Vous savez, Gould était, dans son écriture, un garçon très facétieux. Il était très drôle et il a publié, par exemple, un interview de lui-même où il se fait à lui-même des objections. Quelqu'un lui dit, par exemple, pourquoi tu n'en profites pas, retourne au concert, et ainsi de suite. Et donc, il se donnait l'occasion de donner sa propre position de cette manière-là. Or, sur ces questions, dans une interview tout à fait célèbre et cruciale qui a été donnée à la revue Rolling Stone en 1974, Gould a eu des phrases limpides sur le fondement, appelons-le spirituel, de son esthétique. Et je reviens souvent autour d'une phrase en particulier, toujours la même, qui est très importante, que je cite par moment par bribes et par moment entièrement dans chacune des sept pièces qui composent cette partita.
Oui, parce qu'il faut dire un mot, on dira un mot de votre forme à vous aussi.
On dira. Et, alors, mais sur religieux, etc. Alors, il a dit, le but de l'art n'est pas la libération momentanée d'un peu d'adrénaline, mais la construction infinie tout au cours de notre vie d'un narcissisme supérieur qui nous permet de libérer la part de divinité qui est en nous. Bon, ça, c'est cité à peu près correctement. Alors, tous les mots sont importants dans ça. D'abord, évidemment, le mot édification, c'est-à-dire à la fois construction et position d'un modèle supérieur, un narcissisme supérieur, car Gould, comme tous les artistes intelligents, reconnaissait que le narcissisme est le fondement de l'art, c'est-à-dire chercher une image de soi, finalement, qui nous déporte toujours au-delà de la médiocrité dans laquelle on sait que, par ailleurs, on est enfermé. L'autre mot important, évidemment, c'est la part de divinité. Ça, peut-être qu'on pourrait en parler de manière peut-être plus concentrée, parce que Gould n'a pas publié de textes particulièrement religieux. Et il n'a pas non plus fait de confession religieuse, mais...
Mais il n'a jamais rompu non plus avec la foi de ses pères et mères.
Il a toujours dit qu'il était, depuis sa jeunesse, persuadé qu'il existait quelque chose d'autre. Le mot est très important, autre. Mais il n'a jamais voulu donner une formulation chrétienne à cet autre. Donc, il a rompu, on pourrait dire, avec le presbytérianisme et tout ça. Pendant un moment, moi, j'ai pensé que le bouddhisme était ce qui l'avait intéressé le plus. Je consacre d'ailleurs un chapitre à un écrivain japonais qui s'appelle Natsume Soseki, qu'il avait lu et qu'il n'a cessé de lire. Soseki l'a accompagné toute sa vie. Une des dernières fois où on entend la voix de Gould, et comme je souhaiterais pouvoir l'entendre à la radio, c'est dans les archives de Radio-Canada, il était invité à une émission qui s'appelle Book Time sur les ondes de la CBC à Toronto, et on lui avait dit, est-ce que vous pourriez pas lire un écrivain que vous aimez? Et il a lu donc deux pages de Soseki, L'oreiller d'herbe. Alors, que raconte L'oreiller d'herbe? C'est l'itinéraire, l'errance, pourrait-on dire, d'un artiste peintre qui cherche l'œuvre et qui, au fur et à mesure qu'il se met sur le chemin de l'œuvre, en fait, s'aperçoit qu'il cherche d'abord l'état que lui donne l'œuvre, que lui procure le travail de l'art. Alors, j'ai pensé que cette référence bouddhiste, parce que le texte de Soseki est très nourri par un bouddhisme très austère, était peut-être ce qui avait intéressé Gould finalement assez longuement, mais je ne peux pas dire que j'ai été récompensé, c'est-à-dire que je n'ai rien trouvé dans son... ni dans ses journaux, ni dans sa correspondance qui soutiennent ça.
Alors, peut-être que le mot spirituel est celui que nous pouvons utiliser.
C'est le mot que lui utilise.
Et qu'il utilise et qui est le plus juste.
Oui.
Maintenant, parlons du sous-titre de votre ouvrage, Musique et forme de vie. On vous sent attentif à la portée éthique de l'œuvre de Gould. Nous reviendrons dans un instant d'ailleurs sur cette dimension éthique, mais d'emblée, interrogeons-nous sur l'utilisation du mot œuvre. Gould, avant tout interprète, même s'il a tâté aussi de la composition, il y a un quatuor à cordes, et vers la fin de sa vie, si on met à part les œuvres de jeunesse, c'est-à-dire dans la vingtaine.
Oui.
Puis il y a les œuvres de jeunesse, évidemment, et puis il y a une fugue aussi, n'est-ce pas? Alors, quelle est l'œuvre de l'interprète, d'un interprète tel que Gould? Où loge-t-elle, en l'occurrence?
Alors, c'est peut-être un usage abusif du terme œuvre que de parler de l'œuvre d'un interprète, mais je le revendique. C'est-à-dire que je ne me sens je ne vois aucune difficulté à parler de l'œuvre d'un interprète. Pourquoi? Parce que ceci suppose toutes sortes de considérations d'esthétique et d'herméneutique, mais on peut les traverser assez vite. L'œuvre est sans cesse recréée. Et dans le cas de la musique, Gould était partagé entre deux approches de l'esthétique de l'œuvre. Vous m'arrêtez si je deviens obscur. Une première part de lui, il a souvent écrit cela, était qu'il n'est pas nécessaire de jouer l'œuvre pour l'entendre. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que pour un musicien, la musique est une chose d'abord mentale. Elle existe, en d'autres mots, entièrement indépendamment du son matériel. Bon, évidemment, ni vous ni moi, en tout cas certainement pas moi, n'appartenons à cette catégorie de personnes pour qui la musique peut être cela. Mais lui le revendiquait, et il le revendiquait à partir d'une histoire de la musique qu'il avait reconstitué au fin précisément de soutenir cette esthétique. Alors, je veux m'expliquer là-dessus. Il avait une prédilection, ça c'est ce que tout le monde sait bien sûr, pour la musique de Jean-Sébastien Bach. Prédilection n'est pas un mot qui est satisfaisant. Il aimait par-dessus tout la musique de Jean-Sébastien Bach, et dans la musique de Jean-Sébastien Bach, il aimait par-dessus tout la fugue. Bon, il a écrit et écrit et écrit sur le privilège de la fugue dans l'histoire de la musique. Dans un article très important qui s'appelle « Comment interpréter la musique de Jean-Sébastien Bach », il a commenté l'histoire du contrepoint, c'est-à-dire cette art de l'harmonie qui engendre, si j'ose dire, la musique de Jean-Sébastien Bach, de ses contemporains. Et dans cette étude, il tente de montrer que les raisons pour lesquelles la musique de Jean-Sébastien Bach doit être placée au-dessus des autres, c'est qu'elle transpose dans des échelles que nous pouvons entendre, des échelles sonores, des harmonies qui sont le contrepoint même du cosmos. Bon. Pour nous, cette doctrine de l'harmonie céleste, que nous connaissons par Leibniz qui a écrit dessus et par bien d'autres philosophes, n'est plus une doctrine qui est prégnante quand nous écoutons la musique même de Jean-Sébastien Bach. Et il faut donc croire Gould et ceux qui ont écrit sur l'harmonie comme doctrine du monde et non pas seulement comme doctrine musicale. Il faut donc croire Gould quand il nous dit que lire, par exemple, le clavier bien tempéré, c'est lire le monde. Bon, c'est une phrase qui est forte, hein? Enfin, qui a sa force. Et il dit une chose aussi importante que l'accès que nous avons à l'harmonie qui leur est commune est aussi importante que le rapport de la physique à la musique. Bon, ça, c'est une phrase de Gould. Alors, cette idée du rapport entre une doctrine, appelons-la métaphysique, parce qu'il s'agit bien entendu d'une considération de la structure du cosmos, de l'équilibre, de la transparence de l'harmonie.
Et de l'œuvre comme un microcosme.
Et de l'œuvre comme un microcosme, donc, forme toute la première partie de son esthétique philosophique sur la question de l'œuvre. C'est ça pour lui, l'œuvre. Alors, ça m'amène à répondre donc à votre question de manière plus directe. Comment l'artiste qui interprète est-il lui aussi un créateur? Eh bien, chaque interprète pour Gould amène au réel une version, pourrait-on dire, c'est-à-dire chaque interprétation est une des réalités de l'œuvre. C'est une des réalités d'une œuvre qui existe d'abord à l'état transcendant, et il pensait, je le répète, que les musiciens n'avaient pas besoin de jouer les œuvres pour les entendre, mais il les amène dans le réel. Alors, l'héritage d'un pianiste comme lui, c'est un héritage qui n'est pas seulement, on pourrait dire, un héritage discographique ou de témoignage de ce qu'il a joué tel jour ou tel jour. Non. Les variations Goldberg. Prenons cet exemple, si vous voulez. Okay? Parce que c'est l'œuvre qu'il a rendue célèbre, 1955 et tout. Il faut lire et entendre ce qu'il en a dit quand il les a réenregistrés en 1981. Bon. D'abord, il a critiqué très sévèrement son enregistrement de jeunesse. Il a dit que plusieurs des pièces des variations étaient, toujours le même mot, pianistiques. C'est presque aussi pire que de dire chopinesque. Ça voulait dire elles étaient marquées par certains effets, des ornements, une certaine précipitation à l'exécution, des choses comme ça. Bon. Et quand nous écoutons la deuxième version, qui est beaucoup plus méditative, nous voyons bien la différence. Or, comment est-ce qu'il a commenté précisément cette deuxième version? Il l'a commenté comme une deuxième œuvre. Il a dit « Les variations Goldberg sont d'abord cette version, alors que je croyais qu'elles étaient cette autre. » Les deux, pour nous, sont indissociables. Il faut remercier Sony de nous avoir donné dans un coffret les deux ensemble. On trouve dans un coffret les deux versions l'une à côté de l'autre. Et ça, c'est formidable. Et bon, il y a une autre œuvre. C'est-à-dire que Gould est aussi matériel. C'est-à-dire que ce n'est pas un pianiste immatériel. Nous pouvons le voir, et ça, on pourrait peut-être en parler aussi. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que son corps était essentiel à l'interprétation.
Donc, corps torturé.
Oui, parlons de ça si vous voulez. C'est vraiment très, très important d'aller vers ce sujet parce que ce corps, il ne l'a pas soigné.
Oui.
Vous voulez qu'on parle de ça?
Oui, le corps torturé, mortifié, pourrait-on dire. Mais ce n'est pas de la mortification, c'est simplement plier le corps à la discipline de la musique, en faire un prolongement du piano. C'est un peu ce que souhaite Gould, non?
Alors, je me suis d'abord intéressé à ses mains, à ses coudes, à ses épaules. j'ai lu un peu ce qu'on avait écrit sur ça. Ça paraît curieux, mais il y a énormément de choses qui ont été écrites sur ses épaules pour des raisons que les musiciens ici expliqueraient beaucoup mieux que moi. Gould, dans sa jeunesse, quand il a commencé à jouer à l'instrument, a adopté très rapidement une mauvaise posture. Pour toutes sortes de raisons qui ont à voir avec sa mère d'abord, mais surtout avec son maître du Conservatoire de Toronto, un Chilien d'origine qui s'appelait Alberto Guerrero. Et Guerrero avait développé une théorie concernant le développement de la puissance musculaire chez les pianistes. Il jugeait que les pianistes doivent travailler d'abord et avant tout avec les mains et les bras et que la puissance des épaules doit être poussée, en quelque sorte, vers les mains et les bras. Alors, il avait développé une technique qui s'appelle le tapping, qui consistait à frapper les doigts d'abord sur un clavier plat, ensuite à l'instrument, pour forcer les doigts dans la position de ce qui allait devoir être joué. Mais Gould rappelle que très souvent, sinon tout le temps, son maître se tenait derrière lui et lui enfonçait le dos de toutes ses forces pour que Gould ne cherche pas à remonter du dos. Tu nous expliqueras ça. Pierre, qui est là, Pierre Jasmin, qui est pianiste et qui pourrait nous expliquer pourquoi cette technique, en quelque sorte, l'a amené à s'aplatir, c'est-à-dire de plus en plus à s'enfoncer. Et donc, plus nous avons des photos de lui, plus nous voyons que sa position à l'instrument est basse. Il descend, il descend, il descend. Et à un moment donné, nous le voyons, il joue à presque la tête, les dents au niveau du clavier. Il est si bas qu'il est complètement contorsionné. C'est alors qu'il a demandé à son père de lui fabriquer une chaise parce qu'aucun banc de pianiste n'était assez bas pour le supporter dans la position qu'il souhaitait. Et en plus, il voulait que le banc ait des contrôles sur chacune des quatre pattes. La chaise avait ça. Son père a organisé ça. Et donc, cette petite chaise bancale qui est maintenant... Une pièce de musée. Fait partie de la collection des artefacts du culte Gould, si j'ose dire.
Mais donc, ce corps est le résultat d'un dressage.
Alors, il y a eu un
et de consignes intériorisées d'un maître. Mais alors, pourquoi...
Mais attends, alors, ce qui s'est passé, c'est je le dis comme je le pense. Parce que là-dessus, vous allez lire beaucoup de choses. Très rapidement, je pense que cette posture a induit des maux, des problèmes physiothérapeutiques qui demandaient du soin. Très rapidement, il a dû donc commencer à consulter. Il avait des médecins, des chirurgiens, des orthopédistes, des physiothérapeutes en nombre tel que son carnet de médical... C'est quelque chose d'absolument inouï. Mais ce n'est pas tout. C'est que comme il souffrait, il avait tout le temps mal à l'épaule. Quand, par exemple, Peter Oswald, qui est son ami musicien américain de Los Angeles, le rencontre pour la première fois, on parle d'une rencontre alors qu'il est assez jeune, Oswald le voit au concert à Los Angeles. Et Gould lui dit « Ah, vous êtes musicien, parfait, on n'ira pas à ce cocktail qui est organisé pour moi après le concert, j'aimerais aller chez vous. » Alors, Oswald, qui pensait rencontrer quelqu'un d'un peu froid et distant, rencontre quelqu'un qui veut le rencontrer tout de suite. Ils vont chez lui. Gould dit « Qui fait quel instrument ici ?» Alors, Oswald fait quelques téléphones, il faut se rendre compte, il est 1h du matin, ils font venir des musiciens. Tout ça est raconté dans le détail par Peter Oswald. Et donc, ils font du quatuor à cordes, ils font un quintet, ils font toutes sortes de choses. Et jusqu'à la nuit avancée, ils sont très heureux. Et à un moment donné, Gould devient souffrant. Et sachant que Oswald est médecin, il se déshabille Et il demande à tout le monde de regarder ses épaules. Parce qu'il dit, j'ai mal ici, j'ai mal là, et ainsi de suite. Ça, c'est un syndrome qui, dans sa vie, va être constant. Et que tous les médecins qui l'ont soigné, tous les physiothérapeutes qui l'ont vu, ont documenté. C'est-à-dire cette espèce d'hypocondrie considérable associée à des maux qui, à mon avis, ne pouvaient être que réels. Il imaginait qu'il allait devoir être opéré, qu'il allait devoir subir une chirurgie. Il prenait médicament sur médicament. Il manipulait les médecins. Ça a été démontré par tous les gens qui l'ont connu et soigné. Il connaissait les médicaments. Ben, en cela, il ne fait qu'anticiper ce que la génération Internet, paraît-il, fait avec tous les médecins aujourd'hui. Il arrivait dans le bureau du médecin, il disait, il paraît que Napoxin, c'est excellent pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je prendrais aussi bien un petit peu de ceci. Un petit peu
Il avait fait son marché. Un petit peu de
Librax. Et un petit peu, la liste de ses ordonnances médicales, c'est fantastique. Donc, moi, je l'écris comme je le pense. Je pense que tous ces médecins, ah, mon Dieu, comment dire ça simplement, en résumant ce que j'ai dit, ont été très complaisants avec lui. Il aurait fallu qu'un médecin lui dise, écoute, Glenn, on va arrêter ça. Les ordonnances et tout, c'est poubelle. Tu vas demain matin t'inscrire à un bon cours de yoga. On va rétablir la posture et il faut prendre en charge ce corps que tu dopes avec trop de médicaments,
et qu'il
que tu fais souffrir. Et c'est ça, à la fin, bon, il est mort à 50 ans d'un corps absolument usé, vraiment mal en point.
Ouais, mais alors ce corps, justement, alors la posture de Glenn Gould au piano, vous dites une harmonie qui est en contredit. Nous entendons, grâce à cette posture, ou à cause de cette posture, ou en dépit de cette posture, nous entendons une harmonie qui en contredit la misère, son hypocondrie. Enfin, nous touchons là aux excentricités de Gould. Elles sont nombreuses. Elles ont aussi sûrement contribué à créer l'image de Gould que nous avons. Alors, parlons-en de ces excentricités. Les applaudissements, par exemple, à bannir. Il n'aimait pas les applaudissements. C'est lié à la critique du public également.
Ben ça, il s'en est débarrassé très vite. Quand il a écrit « Let's ban applause », interdisons les applaudissements, c'était au moment où il jugeait qu'il savait qu'il allait quitter le concert. Mais je sais qu'à Stratford, dont il était le directeur musical à un certain moment, il avait mis au programme du concert « L'art de la fugue ». Et il a demandé qu'à la fin, les lumières s'éteignent et qu'il n'y ait aucun applaudissement. Bon, il était cohérent. Ça, c'était au moment où il était encore en concert dans le public.
Donc, la vie nocturne, évidemment, la vie...
la nourriture.
La nourriture, la crainte...
L'habillement,
la crainte du froid, être toujours emmitouflé. Et puis aussi des goûts, et ça, vous en parlez, c'est très... De toute façon, il s'est expliqué là-dessus. Barbara Streisand, Petula Clark, la compagne. Comment expliquer? Donc, il y a eu aussi beaucoup de commentaires là-dessus, mais Petula Clark, ce qui est intéressant dans la lecture que vous en faites, qu'on lit en filigrane, c'est qu'elle pourrait, les Petula Clark de ce monde seraient en fait l'écho d'un monde, le monde de tous les jours, qui le rattrape dans sa solitude et en même temps qui le rappelle à lui-même, là d'où il vient, et qui le hante d'une certaine façon, dont il veut se débarrasser, mais qu'il aime encore. C'est ça, Petula Clark, non?
Oui. Petula Clark et Barbara Streisand, c'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas le même statut.
C'est-à-dire, c'est pas le même modèle. Barbara Streisand, c'est la figure maternelle, alors que, évidemment, Petula Clark, c'est l'éros de l'adolescence qui fait retour au moment où il sait qu'il y a renoncé. Donc là, sur le plan, je dirais, de toute la dynamique affective et même sexuelle de la vie de Gould, son essai sur Petula Clark. Je dois dire très franchement, je ne l'avais jamais lu sérieusement, il faut que je sois franc. Quand je l'ai lu pour ce livre, je fonctionnais dans le préjugé du film de François Girard. Je ne veux pas dire que François Girard n'a pas lu l'essai sur Petula Clark, mais François Girard a présenté un Gould, je dirais, sympathique au quotidien, s'arrêtant dans les relais routiers, écoutant dans sa grosse Buick ou sa Lincoln,
pianotant
la musique des jukebox. Bon, c'est vrai, puisque c'est Gould lui-même qui le raconte, il aimait rien tant que quitter Toronto au volant d'une de ses grosses voitures et puis monter sur la route 117 qui monte vers le lac Simcoe où ses parents avaient une maison donc, quand il était jeune et où il aimait se retirer par la suite. D'accord, tout ça est juste. Mais quand nous lisons l'essai sur Petula Clark, c'est un essai effrayant. Je connais aucun musicien qui est allé si loin dans, premièrement, la tentative de rapprocher la musique populaire de la musique savante. Puisque, comme vous le savez, c'est un essai qui compare les tonalités des chansons de Petula Clark à la musique de Webern. Bon, c'est exagéré. C'est délirant. Bon, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est la conclusion de mon livre, je ne devrais peut-être pas la livrer. Il fait ça parce que il se protège, il le dit explicitement, il est vulnérable à ce qu'il entend dans quatre chansons de Petula Clark. Il faudrait presque les faire jouer ici pour qu'on... Vous pouvez aller les chercher
Downtown
sur Internet.
Downtown notamment.
Downtown notamment. Alors, que dit la chanson Downtown? La chanson Downtown dit que si tu es seul et malheureux, n'aie pas peur, viens en ville, viens dans le bas de la ville, il va toujours se passer quelque chose pour toi, l'amour est au coin de la rue et t'attend. C'est la ritournelle. Il écoute aussi Love, une très belle chanson qui dit en gros le même message. Et donc, au bout de son analyse de ces chansons, il dit que le message de Petula Clark est... Et l'appel que fait l'époque à une jeunesse qui n'a pas compris qu'elle va devoir affronter la misère de l'abandon sexuel. C'est-à-dire l'idée que rien dans notre époque n'est à la hauteur de ce que l'époque nous demande d'être sexuellement. Bon. Et le concernant lui, c'est sûr... on voit comment le texte est travaillé. Le texte se déplace immédiatement, je dirais, dans le passage, dans l'endroit où il doit construire un rempart à sa propre vulnérabilité. Et ce rempart, ça va être une analyse musicologique très, très élaborée de ces chansons-là pour les placer dans ce qui le protège lui-même de la souffrance. Je dis ça un peu rapidement. Mais c'est un texte...
Donc, intellectualiser les chansons de Petula?
Les intellectualiser et surtout les déplacer de leur objet. C'est-à-dire que les faire changer de lieu. Si c'est relu, peut-être pas beaucoup, et qu'il a continué à publier ce texte-là, il n'y a aucun doute qu'il le destinait à un lecteur qui pouvait en entendre donc les harmoniques, appelons-les, défensives ou transférentielles.
Oui. Mais donc, il y a une critique du monde moderne, enfin de la société, dans sa lecture des chansons de Petula Clark.
Oui, d'une fausse exubérance.
D'une fausse exubérance, oui. des errements du monde, des miroirs aux alouettes qui pullulent dans le monde moderne. Alors, revenons à cette forme de vie, justement, et à la dimension éthique de l'œuvre de Gould, parce qu'on sait qu'on peut parler d'œuvre s'agissant de lui. Forme de vie. Il s'agit donc pour cette vie de coïncider avec des exigences non plus métaphysiques, par exemple, mais proprement éthiques, cette fois?
Alors, quand j'ai utilisé le mot « forme de vie » pour la première fois, c'était dans un article que j'ai publié dans le Glenn Gould Pluriel, donc le colloque de l'Université du Québec à Montréal, et j'en ai repris quelques idées dans le livre.